Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, saint Ignace nous dit que l'amour de Dieu consiste plus dans les actes que dans les paroles. Je demandais conseil une fois à Mgr Williamson, parce que j'étais chargé d'un bulletin sacerdotal pour les prêtres du district de France, et je n'y mettais pas beaucoup de ce qu'on appelle la spiritualité. J'y mettais beaucoup de ce que je suis en train de vous donner, c'est-à-dire les dévoiler les plans de l'ennemi, les mises en garde, et puis évidemment les moyens pour résister et pour renverser les choses auprès des fidèles. Et donc, mettant peu de spiritualité, je m'en inquiétais un peu, et je m'en ouvris à Mgr Williamson, qui me dit « Continuez comme ça, continuez, continuez, la vraie spiritualité, c'est cela !» Par conséquent, mes bien chers frères, je vous donne de la vraie spiritualité, c'est-à-dire celle qui va vous permettre de poser des actes d'amour du bon Dieu. Vous avez, je vous l'ai dit au début, deux amours en fait deux cités, l'amour c'est ce qui attire, le bien c'est ce qui attire, donc deux attirances. On a soit l'attirance vers le monde, soit l'attirance vers le bon Dieu. Le problème, c'est que le démon est subtil, il est menteur. Si encore il était menteur par oui et non, ce serait facile, on mettrait non là où il y a oui et oui là où il nous dit non. Mais il embrouille les choses. Enfin, nous allons le voir. Je vais vous parler aujourd'hui de la conscience. Je pense que vous vous rendez compte dès le début que c'est un problème très moderne. Commençons, première partie, ce qu'est la conscience en réalité. Saint Thomas d'Aquin en parle, bien entendu, parce que c'est important. La conscience est un acte, dit Saint Thomas d'Aquin, et non pas une faculté. Vous vous rappelez que au dernier sermon de dimanche dernier, je vous ai parlé de l'importance d'entrer dans la sagesse de Dieu, d'entrer dans la vérité de Dieu. Et il y a un travail d'ascension, de découverte des choses, et petit à petit, à partir de tout ce qui nous entoure, nous découvrons la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu qui a fait des familles, qui a fait des supérieurs, qui a surtout fait des vérités. Et nous montons jusqu'à Dieu, et jusqu'aux principes, voyez, par lesquels Dieu guide le monde. Après ça, il faut redescendre. Il faut redescendre et appliquer cette sagesse à tout ce que nous avons à faire. C'est tout le travail de l'intellection, travail intellectuel. Vous aurez remarqué que dans tous mes sermons, je mets très souvent l'intelligence en avant, avant la volonté. Parce que la volonté est une faculté aveugle. Elle est éclairée par l'intelligence. Quand je vous parle d'intelligence, je ne vous parle pas de savants, de gens qui ont fait des hautes études. Je vous parle de l'intelligence, principalement l'intelligence de la foi, qui est une intelligence du cœur, mais qui est une intelligence, qui est une pénétration des vérités divines, de la sagesse de Dieu. Et qui voit d'abord qui est Dieu, puis comment Dieu gouverne le monde, et comment on va dans le sens de Dieu, comment on le sert, dans le sens qu'il attend de nous. Et donc vous avez tout un processus d'intellection qui monte et puis qui redescend. Le dernier acte de l'intelligence, le dernier acte, est ce qu'on appelle un acte de conscience, dans lequel on réfléchit, on fait le bilan, et puis on dit, oui, c'est bien cela. Qu'il s'agisse de la connaissance purement intellectuelle, vous faites une démonstration du théorème de Thalès, et puis vous faites une multiplication, après ça vous faites la preuve par 9. Oui, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Ça peut être un acte d'intellection dans l'art. Je sculpte une statue, je peins une image. Oui, cette image, effectivement, est conforme à mon modèle. J'ai conscience que j'ai bien réussi. Et puis, évidemment, dans la morale, c'est-à-dire dans l'agir humain, l'action que j'ai posée ou l'action que je projette de poser est-elle conforme à ce que ma raison m'a montré? Ai-je fait une faute de raisonnement? Me suis-je bien mis sous l'influence de Dieu? Ai-je bien cherché à honorer, louer, servir Dieu? Et voilà, qu'est-ce que je conclus? Est-ce que je projette de faire est-il en accord avec ce que j'ai conclu? C'est très important parce que, après cela, la volonté va donner les ordres à toutes nos puissances de faire telle chose, de ne pas faire telle autre, d'aller ici, de prêcher ceci, de parler de cela, etc. Saint Thomas détaille les trois actes de la conscience. Lorsque nous reconnaissons que nous avons accompli telle ou telle action, la conscience atteste. Voilà, c'est neutre, elle atteste. Tu as fait ceci. Lorsque nous jugeons qu'il faut accomplir ou ne pas accomplir une action, la conscience incite ou oblige. Attention, la conscience en ce sens que notre raison nous incite ou nous oblige, et nous en prenons conscience, et nous posons l'acte qui va dans ce sens-là. Et troisièmement, l'acte de conscience juge la conformité de ce qui a été fait selon la raison ou non, et par conséquent, elle excuse ou justifie, elle accuse ou elle reproche. Le jugement de conscience, vous le voyez donc bien, mes bien chers frères, n'est donc pas une activité autonome. Elle est l'accomplissement de tout un processus de dépendance envers Dieu. Ça, c'est très important. Que va faire le démon? Il va faire deux choses. Premièrement, embrouiller. Deuxièmement, souiller, salir. Premièrement, embrouiller. Alors, il peut embrouiller l'intelligence de nombreuses façons. Vous vous rappelez que le catéchisme du Concile de Trente a mis en premier l'embrouille mise dans les esprits chrétiens par les hérésies. Saint Ignace parle deux fois de l'embrouille. Dans les deux étendards, le démon est dans une chair de feu et de fumée. La fumée, on ne peut pas dire que cela permette de voir loin, ni distinctement. Et puis, il en parle également dans les règles du discernement des esprits. Le démon embrouille par des faux arguments, des faux raisonnements. Seulement, le démon va aller plus loin. Et il a intérêt à aller plus loin. Et ça, il l'a fait dès le début. Heureusement, tout le monde n'est pas tombé dans le piège du démon parce qu'il y avait encore la foi, une foi forte, réelle. Mais dès que l'homme suit sa pente mauvaise, alors il lui est très facile de tomber dans ce piège du démon parce que, je vais vous le dire, il cherche à se justifier. Le meilleur moyen de couper l'intelligence de la sagesse de Dieu, c'est de rendre le jugement de la conscience autonome, de le rendre indépendant de Dieu, et donc, par conséquent, de le rendre dépendant d'autre chose que de Dieu. Évidemment, ça ne peut être que de nous. Nous n'allons pas dépendre des autres, ça n'a pas d'intérêt, et puis ça ne nous arrange pas. Donc le démon souffle une activité, pas une activité, un jugement, une décision, qui sera sans rapport avec la raison, et donc sans rapport avec la raison éclairée par la foi, et donc sans rapport avec la sagesse de Dieu. Cela, quand on l'expose comme ça, c'est une évidemment gravissime d'une part, totalement illogique, totalement contraire à la fin de la nature humaine, à la finalité de notre vie. Exposé comme cela, n'importe qui se dit « mais c'est faux, on ne peut pas aller dans ce sens-là ». Le problème, c'est que nous avons des blessures, et que ces blessures, ben, nous poussent à aller dans ce sens-là, parce que le démon se part d'une certaine autorité. Les faux philosophes du XVIIIe se sont parés d'autorité, justement en se donnant le nom de philosophe, puis en publiant des grands livres, tout cela. Alors les gens n'y ont vu que du feu, parce qu'ils l'ont bien voulu. Par conséquent, le démon rend le jugement, la décision indépendante de Dieu, Cela dépend de ta conscience, dit-il, et dépendre de la conscience, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire dépendre des passions, ou bien dépendre de l'utilité personnelle, et non plus du bien commun. Nous cherchons ce qui nous arrange nous, et non plus ce qui convient au bien de l'Église, ou à l'amitié dans la société. Ou bien c'est suivre une fausse paix qu'on recherche, pas d'histoire, pas d'ennui, pas de problème. Et alors cela va plus loin. Parce qu'une fois que l'homme a posé l'acte qui correspond à cette conscience coupée de tout, indépendante, totalement indépendante, il a posé lui-même l'acte. Il a pris lui-même la décision. Le démon, en disant de suivre la conscience, et non pas de suivre ce qu'il nous indique, c'est très habile cela. Le démon pourrait dire « Fais ce que je te dis ». Et il ne dit pas cela, parce qu'il se dévoilerait. Il dit « Fais ce que tu vois, tout ce que ta conscience t'indique comme convenable ». Il donne évidemment aucun critère de convenance, comme je vous l'ai expliqué. Et donc c'est le pécheur lui-même qui va poser l'acte. Et c'est un principe de psychologie, on appelle ça la dissension cognitive, qu'une fois qu'on pose un acte, on cherche à se justifier. C'est déjà vrai dans le cas des péchés de faiblesse, par exemple l'ivrogne, l'adultère, on cherchait à se justifier, on ne pouvait pas faire autrement, leur femme était trop dure, que sais-je. C'est encore plus vrai dans les péchés de malice, c'est-à-dire dans les péchés d'aveuglement, on se justifie de s'être coupé de Dieu. Et alors du coup, on s'enfonce dans le péché. Et la conscience, telle qu'elle est suggérée, telle qu'elle est encouragée, l'exercice de la conscience moderne, aujourd'hui, est fait pour enfoncer dans le péché. Même ceux qui n'ont pas une conscience trop mauvaise, nécessairement, parce qu'ils ne suivent pas la bonne règle, ne sont pas vraiment tournés vers Dieu. Il y a peut-être des restes, mais ils ne sont pas tournés vers Dieu. Une fois le feu allumé, donc nous sommes dans la troisième partie. La première partie, c'était la conscience en vérité, je vous ai expliqué saint Thomas d'Aquin. La deuxième, c'est l'œuvre du démon qui embrouille et qui souille. Troisième partie, une fois le feu allumé, le démon souffle sur l'incendie. Alors ce sont les faux philosophes du XVIIIe qui affirment que la raison est incapable de monter jusqu'à la sagesse de Dieu. Ils osent même dire que la raison est incapable de connaître les choses. C'est complètement contradictoire, parce qu'ils ne parlent que de raison. Ils vont instaurer le culte de la déesse raison. Mais cette raison dont ils parlent est une raison aveugle. C'est une raison de conscience aveugle. Au lieu que la conscience dépende de la raison, ce qui est notre cas, ce que nous cherchons, la raison chez eux dépend de la conscience, c'est-à-dire du caprice. Donc ces faux philosophes, la raison est impuissante, donc il est inutile de chercher à monter au-dessus de soi. Ils refusent de dire qu'on puisse définir la nature humaine, donc il n'y a pas de fin, il n'y a rien. Et bien plus, celui qui cherche à se référer à la sagesse de Dieu est un fou. Parce qu'il prétend voir quelque chose que personne ne peut voir. Et c'est un fou dangereux parce qu'il impose. En réalité, nous n'imposons rien. Si je vous dis que Dieu est Dieu, je ne vous impose rien. Libre à vous, après cela, d'aller en enfer si vous voulez. Lorsque je dis à un père de famille, si vous laissez votre fils traverser la rue sans lui apprendre à prendre les précautions, il va être écrasé par une voiture, je lui interdis pas, j'interdis rien du tout, je n'oblige à rien du tout, il fait comme il veut, j'annonce que le fils va être écrasé par une voiture. Mais vous comprenez que, comme justement la force de notre affirmation vient de Dieu, parce que notre raison connaît les choses. Les exemples que je vous ai pris ne sont pas très compliqués à comprendre. Mais ils sont vrais, hein ? Quand vous osez dire à un père de famille qu'il ne faut pas qu'il laisse son fils seul sur Internet avec un accès libre à Internet, que ce soit sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable, les gens traduisent, vous m'interdisez, vous ne me laissez pas libre, vous ne laissez pas libre mon fils. Alors, je l'ai entendu souvent, cela. J'ai lu un article d'un mouvement catholique qui s'occupe de famille dans la tradition et qui osait écrire ces choses-là. Par conséquent, se référer à la sagesse de Dieu, c'est voir des choses que l'homme ne peut pas voir, c'est imposer un raisonnement pour décider ce que nous devons faire, par conséquent, c'est brimer la conscience des autres, par conséquent, c'est être très dangereux, et ces hommes-là doivent être éliminés. Je me rappelle une fois à Saint-Nicolas du Chardonnay, un des ministres avait dit qu'il fallait condamner tous ceux qui se croyaient détenteurs de la vérité. Et comme je pensais qu'il parlait des traditionalistes, en chair, j'en avais demandé au ministre s'il voulait allumer des bûchers pour brûler les traditionalistes. Dès le lendemain, le ministère de l'Intérieur a appelé à Saint-Nicolas du Chardonnay. Comme la paroisse n'est pas si grosse que cela, ils ne sont pas tombés sur une secrétaire, mais c'est moi qui ai répondu. Donc c'est à moi qu'ils ont fait la remarque, alors qu'ils voulaient la faire au curé pour que le curé me mette au pas. Et j'ai dit, mais enfin écoutez, le ministre m'a attaqué. Comment? Il vous a pas attaqué? Je dis, si, il a dit cela. Ah, vous l'avez pris pour vous. Ah non, mais c'était toute l'Église qui était visée. Le simple fait d'affirmer des vérités, c'est condamnable. Le feu allumé, le démon souffle sur l'incendie, c'est le modernisme. Le triomphe du modernisme, c'est le triomphe de la conscience dans l'Église. Ah, ça fait une conscience religieuse. Alors là, tout le monde n'y voit que du feu. On est sorti de la conscience de Voltaire pour entrer dans la conscience religieuse. Et la liberté de conscience a été déclarée sacrée par le Concile Vatican II. C'est le décret sur la liberté religieuse, parce qu'évidemment, si la conscience est libre, il est évident qu'on doit en conclure à la liberté religieuse. C'est une évidence. Décret sur la liberté religieuse qui repose sur la liberté de la conscience, qui a donc été déclarée sacrée, parce que l'homme est parfait, c'est la dignité de l'homme que d'avoir une conscience autonome. Si elle n'est pas autonome, il n'est pas digne, puisqu'il dépend. Comme si notre dignité n'était pas reçue. Alors je termine. Cette liberté de conscience a été condamnée par le magistère traditionnel de l'Église. Grégoire XVI l'appelle un délire. Dans son encyclique Mirarivos, contre l'Amenée, contre les libéraux, les catholiques libéraux. Ce délire qu'on doit procurer et garantir à chacun la liberté de conscience. C'est une erreur des plus contagieuses. C'est la liberté absolue et sans frein qui prépare à cette liberté de conscience pour la ruine de l'Église et de l'État. Cela va se répandant de toutes parts et certains hommes, par un excès d'impudence, ne craignent pas d'affirmer comme avantageuse cette liberté de conscience pour la religion. Et il cite saint Augustin, « Quelle mort plus funeste pour les âmes que la liberté de l'erreur ?» Nous reviendrons dans le prochain sermon sur l'encyclique de saint Pie X, Pascendi, qui condamne le modernisme et qui condamne principalement, justement, cette autonomie de la conscience. Et puis vous avez Léon XIII, lorsqu'il condamne les francs-maçons, le premier principe des naturalistes, les naturalistes donc affirment que la raison ne peut pas connaître Dieu. C'est que, en toute chose, la nature ou la raison humaine doit être maîtresse et souveraine. Mais attention, c'est pas la raison que je vous ai dite qui connaît Dieu. C'est la raison autonome, c'est-à-dire la conscience. Cela posé, il s'agit des devoirs envers Dieu, s'il s'agit des devoirs envers Dieu, ou bien ils en font peu de cas, ou bien ils en altèrent les sens, la nature donc, par des opinions vagues et des sentiments erronés. Nous allons voir dans un autre sermon comment le démon va nourrir les sentiments pour achever l'embrouille. Conclusion, mes bien chers frères, parce que je n'oublie pas que c'est un sermon et que vous l'écoutez dimanche en principe. Conclusion, foi qui vous branche sur Dieu, le don du Saint-Esprit, donc demander le Saint-Esprit, don de science et de sagesse et d'intelligence, d'intelligence, de sagesse, de science, de prudence, qui sont des dons intellectuels, et des dons qui guident la raison, qui renforcent la raison. Sur les 7 dons, vous en avez 4 qui renforcent la raison, même s'il y en a un qui est dans la charité. L'étude de Dieu, l'étude du catéchisme, l'étude de la vérité de Dieu, l'étude de la sagesse de Dieu, l'étude de la folie du monde. Je vous recommande de nouveau d'écouter l'enseignement de Monseigneur Lefebvre, et je vous redis une nouvelle fois que je sais où trouver les œuvres complètes de Monseigneur Lefebvre, je sais qui les diffuse et je sais à qui les demander, à qui vous pourrez les demander. Bien sûr, un grand recours à la Très Sainte Vierge, forte comme une armée rangée en bataille. Vous n'êtes peut-être pas habitué à ce qu'on dise que la Très Sainte Vierge va former votre raison. On pense beaucoup plus à l'amour maternel. Mais ça, justement, c'est une conception fausse de la dévotion à la Très Sainte Vierge. La vraie conception de la dévotion à la Très Sainte Vierge, l'Église nous la donne, c'est qu'elle est forte comme une armée rangée en bataille. Voilà. Bon courage, mes bien chers frères. Prenez vos responsabilités. Du moment que vous dépendez de Dieu, osez affirmer les choses. Osez éclairer vos proches, vos amis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.